RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Nous voilà de retour, il est 8h08, c'est RMC, c'est le week-end des experts, et c'est l'automobile, on est là jusqu'à 10h, comme tous les dimanches.
Tiens, une petite précision François, tout à l'heure. Je parlais de...
J'ai peur de vos précisions.
Non, je parlais de la consommation de la Yaris hybride, où j'ai dit que j'étais entre 4,5 litres et 5 litres, on a un auditeur qui, très justement, fait remarquer que les consommations, à partir du moment où vous avez installé un boîtier éthanol, les consommations de l'ordinateur de bord ne sont pas bonnes, puisque lui, il se base sur les informations de la sonde lambda, il fait un... Il ajuste le mélange en fonction de ça et il a une consommation théorique. Mais sauf que vous avez un autre boîtier derrière qui, vous savez, c'est comme c'est Monsieur Plus
qui rajoute un petit peu. Donc en fait, on consomme plus.
On consomme plus. Mais moi, les consos dont je vous parlais, c'est les consommations mesurées. C'est-à-dire que vous faites le plein, vous voyez combien de litres vous avez mis et vous divisez par le nombre de kilomètres que vous avez fait.
Oui, et là, c'est imparable, évidemment.
Là, c'est la vraie consommation.
32-16, l'appli RMC Direct Studio. N'hésitez pas à poser vos questions et à réagir, bien sûr. On va tout à l'heure retrouver aussi l'essai de la semaine, Jean-Luc. Et l'essai de la semaine, ce sera la Suzuki Vitara hybride.
Oui, plus que des hybrides chez Suzuki. Deuxième marque sur l'hybride non rechargeable en France, derrière Toyota, bien évidemment, qui a une très grande longueur d'avance. Hein, puisque je vous rappelle quand même que la Prius, c'est 1997.
Vous vous rendez compte 1997, à l'époque, tous les constructeurs rigolaient quand Toyota avait sorti ce truc-là. Bon,
vu la tête de la voiture, c'est vrai que ça prêtait à sourire.
Maintenant, ça fait moins rigoler.
Mais la technologie était déjà bien aboutie.
Allez, on enchaîne avec vos questions. Et c'est Bernadette qui est avec nous au 32-16. Bonjour Bernadette.
Bonjour
Bernadette.
Bienvenue.
Bon, elle est très chouette, je ne pourrais pas passer à côté.
Ça c'est sûr. Tout va bien Bernadette?
Elle est tombée.
Tout va bien.
Elle est tombée Bernadette.
Mais non, mais c'est pas ça, c'est que comme une blague était nulle, vous savez, le silence, c'est parfois le meilleur des mépris. Qu'est-ce qui vous arrive Bernadette? On vous écoute.
Eh bien, nous voudrions acheter une... Enfin, nous sommes sur le point de vouloir acheter une Clio hybride. Mais nous posons la question, comme nous roulons à peu près moins de 10 000 km par an, si le surcoût de la voiture est compensé par l'économie de carburant. Et puis, il y a un petit problème qui s'est posé la semaine dernière, parce que vous avez parlé de la Yaris hybride. Alors maintenant, on hésite entre la Yaris et la Clio. Donc, voilà. Donc on ne sait plus trop, donc on a besoin de vos conseils.
Ouais, bon, c'est à cause de Jean-Luc tout ça Bernadette, on est d'accord.
Mais oui, voilà.
Ben oui, je sais.
Je vais vous envoyer un chèque, ça va régler votre problème Bernadette.
On n'achète pas tout avec l'argent Jean-Luc, pas tout.
Oui, heureusement qu'on n'est pas obligé de payer tous les auditeurs qui nous écoutent, ça coûterait un petit peu cher s'il y a du monde quand même.
Alors, pour Bernadette, qu'est-ce que vous en pensez? Clio hybride ou Clio essence?
Oui, non, mais alors vous m'avez dit, on roule peu, mais vous faites quoi comme type de trajet?
Ben, on fait à peu près 90% de trajets, des petits trajets, parce qu'on habite à peu près à 5 km d'une ville assez moyenne, disons. Et donc, on va régulièrement dans cette ville. Donc, on fait un petit peu d'autoroute pour les vacances et quand on va voir les enfants en région parisienne. Mais ça représente à peu près 10%.
C'est de la petite route, quoi.
C'est la petite route, en plus c'est de la route où il faut rouler à 50.
De la route où il faut rouler à 50? Vous avez des petites routes à 50?
Non, mais parce que c'est des petites agglomérations qui se suivent.
D'accord. Donc oui, là l'hybride peut avoir effectivement de l'intérêt. Maintenant, est-ce que vous allez rentabiliser le surcoût? Parce que le surcoût entre une Clio E-Tech 140 et une Clio, alors je prends l'équivalent, c'est-à-dire une TCE 130 avec la boîte EDC, donc la boîte robotisée automatique, c'est environ 1 100 €. Hein, pour des prestations à peu près comparables, c'est 1 100 € d'écart. Donc avant de rentabiliser ces 1 100 € avec l'économie en carburant... Va falloir rouler une bonne dizaine d'années, peut-être même plus que ça.
Voilà, c'est ça.
Donc, vous ne rentabiliserez pas le surcoût. Maintenant, la deuxième solution que vous avez évoquée, effectivement, c'est la Yaris hybride, qui est moins chère que la Clio.
Un
petit peu moins performante que la Clio, mais elle est aussi un tout petit peu plus sobre que la Clio, et elle a surtout un avantage par rapport à la Clio. Alors, attention, je mets des parenthèses. La Yaris, le système hybride, on est sûr que c'est zéro souci. La Clio, peut-être que ce sera zéro souci, mais c'est peut-être.
Oui, ça nous fait hésiter un petit peu parce qu'il n'y a pas de recul sur cette voiture.
Bah non, c'est une nouvelle.
On peut reculer avec, hein.
Oui, 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 si, si, oui, il y a une marche arrière.
Une marche arrière.
Oui, il n'y a pas de recul, d'accord, mais il y a une marche arrière. Donc là, effectivement, c'est une technologie qui est toute nouvelle et qui est propre à Renault. Donc qu'est-ce que ça va donner dans le temps? Je serais tenté de dire wait and see. Hein. On sera obligé d'attendre pour savoir. Donc, il y a ça. Il y a ça. Après, il faut aussi, si vous aimez la Clio et que vous roulez déjà avec une Clio, le choix peut peut-être être plus simple, non? Vous roulez avec quoi?
Non, pour l'instant, on a un Captur.
Ah oui, bon, bah, vous avez déjà un concessionnaire Renault. Si vous entendez bien avec lui, c'est peut-être bien de continuer chez Renault.
Non, pas forcément.
Pas forcément.
Non, parce qu'on n'achète pas chez lui. Donc,
D'accord. Bon, bah, alors, pourquoi pas une Yaris? Hein, qui elle démarre à 20 950 euros, la Yaris hybride. Il y a des opérations en plus promotionnelles. Alors si elle vous plaît, esthétiquement, moi je la trouve un peu plus. Je trouve qu'elle a un peu plus de caractère que l'ancienne génération. Elle est surtout un peu plus confortable. Voilà.
Oui, on a regardé une vidéo sur internet avec mon mari cette semaine. Et puis bah, pourquoi pas, parce que bon, elle a l'air mignonne quand même.
Voilà. Bon là, donc il n'y a pas de surcoût par rapport à la Clio TCE 130 EDC. Mais cela dit, vous auriez pu prendre, parce que tout à l'heure, quand j'ai fait le comparatif par rapport à la Clio E-Tech qui fait 140 chevaux, j'ai pris le modèle TCE 130, mais on peut prendre un modèle moins puissant. On peut prendre le 3 cylindres en TCE 100, qui est là, pour le coup, encore moins cher. Donc, c'est vraiment ça va être une question de budget. Et puis après, c'est aussi une question de responsabilité environnementale. Alors, attention, c'est un grand mot, mais c'est vrai qu'avec un véhicule hybride en agglomération, alors là, je vais encore rajouter une petite couche. Toyota, dans les moteurs thermiques qu'ils proposent dans les solutions hybrides, a beaucoup travaillé sur la pollution de ces moteurs. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un moteur essence associé à un moteur électrique, c'est un moteur essence déjà très peu polluant. Donc, en matière d'empreinte environnementale, la Toyota sera meilleure que la Clio.
Et en plus, on veut une boîte automatique aussi.
Oui, mais là, dans les deux cas, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Il n'y a pas de... C'est automatique ou automatique.
Mais si, par exemple, si on prend la Clio TCE 100, il n'y a pas de boîte automatique.
Ah ben non, sur celle-là, non. Je ne crois pas, d'ailleurs. À vérifier, mais je crois pas qu'il y ait la boîte DC.
Non,
je ne
crois pas, on a regardé.
Oui, donc vous êtes obligé de prendre la 130. Donc plutôt que de prendre la TCE 130, pour le même prix, moi, je prendrais la Toyota.
Oui, voilà.
Bernadette.
Mais on va faire un essai.
Essayez l'une et l'autre, voilà. Essayez l'une et l'autre le mieux. Franchement, je vous dis, parce que j'ai encore des gens qui vont me mettre, ah ouais, mais vous vendez des Toyota au détriment de Renault. Je vends pas une Toyota ou une Renault. On me demande mon avis, je le donne. Maintenant, après, une voiture, on l'achète quand elle vous plaît. Donc le truc, c'est monter dedans, rouler avec. Et les deux voitures sont d'excellentes voitures, mais vraiment d'excellentes voitures. Donc l'une ou l'autre, c'est à peu près pareil. Après, il y a souvent le budget qui enlève la décision à la fin, quoi.
Et puis pour compléter ce que vous dites, lorsque vous choisissez par exemple une Toyota à la place d'une Renault, c'est surtout dans le contexte de l'auditeur, hein. Voilà la situation de l'auditeur.
Complètement, il faut avoir un concessionnaire près de chez soi.
Bien sûr. Et c'est là la valeur ajoutée de Jean-Luc.
Bon, après, il y a l'argument fiabilité sur la Toyota.
Il y a un net avantage. On est d'accord. 8h17 sur RMC. Bernadette nous a appelé au 32-16. Vous pouvez faire de même 32-16, l'appli RMC Direct Studio, pour poser votre question. Jean-Luc, on retrouve maintenant notre chronique juridique. 51 chauffeurs de taxi attaquent un commissaire en justice.
Pas même qu'ils sont 52.
52.
Et donc là, vous assistez en direct. Je dis bien, attention, en direct, à une sorte de tromperie, puisque nous n'avons pas en ligne Rémi Jussaume.
Non.
Nous avons maître
Franck Sanson
qui est avec nous.
Bonjour maître.
Oui, bonjour. Oui.
Bonjour maître, on est désolé de faire une infidélité à Rémi. Hein.
Il nous écoute sûrement.
Mais c'est lui qui m'a conseillé de vous appeler, donc
quelque part,
il est à l'origine.
Et puis peut-être que maître, vous vous levez plus tôt que
c'est possible. Rémi Jussaume. Je le remercie. On se connaît bien et on fait la même chose.
En plus, Rémi nous écoute avec un bonnet de nuit, peut-être pas vous. Donc,
c'est peut-être
plus stylé pour le matin.
Alors, Jean-Luc, racontez-nous cette histoire incroyable.
Oui, alors en fait, il y a un officier du ministère public, du tribunal de Bobigny, qui, a priori, systématiquement rejette les recours. Vous savez qu'on peut aujourd'hui contester dès qu'on a une infraction, on peut contester normalement devant l'officier du ministère public. L'officier du ministère public juge si votre contestation est recevable en fonction des éléments que vous fournissez. Et si elle est recevable, il transmet à un juge qui, lui, prendra la décision de vous relaxer ou de vous condamner. Bon, là, entre les deux, cet officier du ministère public décidait lui-même, en fait, faisait rôle de juge.
D'accord.
Et ne transmettait pas les dossiers au tribunal. On va demander maintenant à Maître Sanson, qui est toujours là. Vous êtes toujours là?
Oui, je suis toujours là, voilà. J'ai écouté.
Alors, est-ce qu'il y a une bêtise dans ce que j'ai dit, ou est-ce qu'on peut résumer différemment?
Non, le résumé est exact, hein. C'est-à-dire que l'officier du ministère public n'est en fait qu'une sorte de caisse enregistreuse, dans la mesure où il est chargé de vérifier que les réclamations sont bien faites dans la forme, dans la pure forme, hein. Est-ce qu'il y a un motif, est-ce qu'il y a l'avis de contravention, pour qu'on puisse savoir de quoi on parle, mais c'est tout. Et une fois qu'il a vérifié la forme de la réclamation, il a l'obligation de la transmettre au tribunal. Et ça n'est pas ce que faisait à Bobigny. Bon, il n'est pas le seul, hein. Il y en a d'autres, hein, mais c'est quand même une violation de la loi.
Et surtout, il répondait pas aux multiples sollicitations qu'il y a eu derrière. C'est-à-dire que ceux qui contestaient sans doute légitimement des PV qu'ils avaient reçus étaient obligés de payer des amendes et perdaient les points. Alors qu'ils pouvaient être innocents, on est d'accord.
Absolument. C'est-à-dire, c'est là que le scandale et la violation de la loi existent. Et c'est pour ça que ces chauffeurs de taxi 51 ont saisi le tribunal contre cet officier du ministère public, parce qu'il jugeait lui-même les infractions. Et donc, les gens se retrouvaient avec des saisies, des pertes de points, en toute illégalité.
Alors, il jugeait lui-même, en plus, toujours dans le même sens.
Toujours dans le même sens, évidemment. Hein. Quand je dis il jugeait lui-même, il rejetait les réclamations sur des motifs, des fois farfelus. Non, l'infraction est bien constituée, mais qu'est-ce qu'il en fait ?
D'accord. Et alors, on peut emmener un officier du ministère public devant la justice ? C'est
mais
possible, ça ?
La loi est faite pour tout le monde. C'est-à-dire que l'officier du ministère public, quand il fait ça, il commet un délit. Et notamment, il y en a même plusieurs. Alors, à Bobigny, c'est pas le cas. Mais dans certains cas, et notamment, on a un cas à Montargis, où il peut y avoir une extorsion. Parce que si on prend l'argent au conducteur alors qu'il ne doit pas donner cet argent, c'est un autre délit.
D'accord. Et ça a été jugé, ça n'a pas été jugé encore, mais cet officier du ministère public, qui est quoi ? C'est un commissaire ? C'est quoi exactement ?
Oui, c'est souvent des commandants ou des commissaires de police qui sont des délégués du procureur. Et on appelle ça des officiers du ministère public.
D'accord. Donc il est passé devant le tribunal cette semaine ?
Alors, nous avions l'audience de consignation cette semaine et ça va être renvoyé à une autre audience pour juger les faits.
Mais comment il se défend ? Alors, comment il s'est défendu ? Il s'est défendu cette semaine ou
pour
juste...
l'instant, il ne s'est pas défendu. On a eu quelques discussions. C'est par ailleurs un homme tout à fait charmant, hein, la question n'est pas là. Il semblerait qu'il sous-entende qu'il n'est pas le signataire des courriers de rejet. Alors ça, c'était un peu fort, parce que venant d'un officier du ministère public, d'entendre « Ah ben, c'est pas moi », c'est un peu simple.
Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il risque ? Alors, d'abord, est-ce qu'il y a une chance qu'il soit condamné ?
C'est une grande question. C'est-à-dire que j'espère bien qu'on pourra faire retenir sa culpabilité, parce que s'il est le signataire de ces courriers, je dis bien s'il l'est, personne vient nous soutenir qu'il avait le droit de faire ça.
D'accord.
Donc j'espère tomber sur un tribunal suffisamment impartial pour oublier qu'il est finalement... il fait partie du tribunal, l'officier du ministère public. Mais là, il y a une faute. La loi, elle est faite pour tout le monde. Quand il y a quelqu'un qui fait une bêtise, et on a suffisamment prévenu, hein, eh bien, il faut cesser.
Oui, alors,
après, on peut imaginer qu'il y a une solidarité dans ce métier qui fait qu'il n'y aura pas de condamnation.
Oui, il y a un risque. Il y a un risque réel. Faut pas se cacher la réalité.
Et est-ce que ça peut changer quelque chose pour donc les 51 chauffeurs de taxi qui ont été condamnés à tort pour certains ?
Alors bah, ça peut changer, ça peut tout changer, parce que si l'officier ministère public se rend compte, enfin il le sait hein, que ces choses-là sont illégales, la situation de ces chauffeurs peut être régularisée pour tous, c'est-à-dire que les sommes saisies illégalement leur seront remboursées et les points leur seront restitués.
Maître, nous avons Samy au 3216 qui est chauffeur de taxi, qui fait partie de ces chauffeurs de taxi qui a déposé plainte contre l'officier du ministère public. Bonjour Samy.
Bonjour monsieur.
Bienvenue sur RMC.
Eh bien, pour la première fois, enchanté.
Eh bien, écoutez, pareillement. Alors, on parle de vous, enfin, pas de vous personnellement, mais...
On parle de vos déboires avec la justice,
de votre action.
Fait, c'est ça, quoi.
Bien entendu que j'aurais préféré surtout, bien entendu, éviter, mais hélas, heureusement que Maître Sanson est là, parce que si je vous explique, ne serait-ce qu'un seul de mes...
Allez-y, parce que c'est ça qui m'intéresse,
Eh bien, je vais vous expliquer bien, pour vous dire le plus aberrant de tous, parce qu'il y en a plusieurs que Maître Sanson s'en occupe, et bien entendu, ça ne se passe que dans le 93, parce qu'ailleurs, il n'y a pas de souci. Et donc, c'est pour vous dire, un simple sens interdit, sauf taxi, sauf bus, sauf PMR, qui, par le biais d'un agent, de gardien de la paix, qui m'a été verbalisé, qui s'en foutait complètement que je sois chauffeur de taxi, et que sur le panneau sens interdit, il y avait bien marqué « sauf taxi », et qui m'a dit que je pouvais faire ce que je voulais pour le contester. Eh bien, j'essaie de faire juste une simple contestation pour ce PV-là, en tant que chauffeur de taxi titulaire d'une carte professionnelle depuis 19 ans, eh ben je ne peux pas bénéficier de mes droits.
Hallucinant. Donc vous avez perdu 4 points.
Vous avez 4 points pour celui-ci, plus encore 3 points pour d'autres.
Oh là là, mais c'est un truc de fou.
C'est-à-dire 7 points en suspens, et malgré les 90 000 km que je fais par an, eh ben voilà, on a un peu notre vie professionnelle suspendue au doigt de ce monsieur.
Mais les conséquences sont graves hein, quand même hein, de ces infractions.
Ouais, c'est extrêmement grave.
Alors, c'est pas rarissime quand même. Hein. On a exactement le même problème à Pontoise. On va procéder à la citation aussi de l'officier du ministère public. Et actuellement, on a un cas à Montargis de quelqu'un qui n'a plus de permis. Donc l'intéressé est à zéro point, plus de permis de conduire parce que l'officier du ministère public fait n'importe quoi.
Donc sans travail.
Ah ben oui.
Et en n'ayant pas commis d'infraction, parce que ça c'est terrible, ce que nous explique Samy, là tout le monde, il n'y a pas besoin d'être un professionnel du droit pour comprendre qu'un sens interdit sauf taxi, quand on est taxi, on a le droit de passer. Quoi.
Bien sûr.
Surtout que tant qu'on n'est pas jugé, l'infraction n'existe pas.
Très bien, voilà.
On essaiera de savoir comment cette histoire finit.
Comment tout ça évolue. Hein. Merci Samy pour ce petit témoignage sur RMC, merci beaucoup, merci de nous écouter en tout cas et bon courage. Vous travaillez là actuellement ?
Exactement, je viens de déposer un client à Chartres.
Bah, très bien, merci en tout cas d'être là. Et merci aussi à Maître Franck Sanson d'avoir été avec nous et nous avoir tout expliqué. Au revoir.
Merci Maître, au revoir.
8h25, Jean-Luc, on revient dans un instant. Appelons Jérémy Soliman pour la météo. Et on revient, on repart avec vos questions au 32-16 dans un instant. N'oubliez pas l'essai de la semaine hein, tout à l'heure. La Suzuki. Vitara, hybride. Voilà, Jean-Luc Latessé nous dira ce qu'il en pense. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau.
Un grand bienvenue à vous qui venez peut-être d'arriver sur RMC en ce 11 octobre 2020. Nous sommes au cœur de ce week-end des experts l'automobile. Vous le savez, tous les dimanches, 7h-10h avec Jean-Luc Moreau à mes côtés.
Oui, alors, tiens, des précisions François. Parce que, alors, il y a quand même pas mal de monde qui nous écoute. Il y a Jeff qui nous dit tout à l'heure, on se demandait si la Clio sans TCE était disponible avec une boîte automatique. Oui, c'est le cas avec une boîte à variation continue Nissan. Ça s'appelle la X-Tronic. Cela dit, on en revient à ce que j'expliquais également. Vu que la Toyota bénéficiera d'une carte grise gratuite dans la très grande majorité des régions, on est au même prix d'achat entre cette Clio sans TCE et la Yaris hybride. Donc bon, bah, voilà, le choix est tout de suite fait. Un autre auditeur qui nous dit il faudra moins de 10 ans pour rentabiliser. Il a eu le temps lui de faire de calculs chez lui. Bon, on va dire que allez, même si c'est 5 ans pour rentabiliser, c'est un petit peu plus long à rentabiliser l'hybride quand on roule peu.
Et bien sûr, voilà. Évidemment. Alors, quand est-ce qu'on va retrouver
une blague qu'on a loupée ?
Pardon ?
Il y a une blague qu'on a loupée.
Oui, mais alors, il faut peut-être la remettre dans le contexte.
Ouais,
mais
David, c'est vrai qu'il nous la propose, mais c'est vrai qu'elle était bien, celui-là.
Oui, bah allez-y. Moi je me désolidarise. Ouais.
Non, on avait Maître Sanson, il nous dit faire de la radio avec Maître Sanson. C'est très fort. On aurait dû lui demander, hein. Est-ce qu'on vous entend bien ?
D'accord.
Voilà.
C'est bon ?
Non, on s'entend bien avec Maître Sanson, il n'y a pas de problème.
Ok. On en rajoute encore une petite couche ou on
enchaîne ? Non, on va s'arrêter là, je crois que c'est mieux, hein, parce que les gens ont déjà le doigt sur le poste.
Ah bah écoutez, là, je pense que là, on est au bout du rouleau. Qu'est-ce qui va se passer d'ici 9h ? Je vous le disais tout à l'heure, l'essai de la semaine à Suzuki Vitara hybride. Et puis, quelques-unes de vos questions. 32-16, la PRMC Direct Studio. Philippe en fait partie. Bonjour Philippe.
Bonjour messieurs.
Bienvenue
Bonjour
Philippe.
Bonjour Philippe.
Oui, donc moi je vous appelle parce que donc actuellement j'ai plus de voiture, j'ai qu'une moto, j'habite du côté de Grenoble et j'aimerais bien donc acquérir une voiture, mais plutôt une voiture qui soit un peu une voiture passion. Donc j'hésitais en voiture d'occasion entre une Mégane RS phase 3 et une Peugeot 308 phase 2 GTI.
GTI, d'accord.
J'arrive pas trop à faire la différence entre les deux véhicules.
Vous voulez, oui, vous arrivez, oui. Alors, je vais vous la faire très simple. Les deux voitures ont le caractère de leur look. La Mégane RS, elle est plus sport, entre guillemets, elle est un peu plus ultime que la Peugeot 308. Ça veut pas dire qu'elle est plus efficace. Bon, allez, dans l'absolu, sur un circuit, elle tournerait sans doute un tout petit peu plus vite. La 308 GTI, d'abord, elle se fondra plus dans la masse. Vous ne serez pas forcément arrêté par les gendarmes quand ils vous verront arriver. Et c'est une voiture qui peut être utilisable au quotidien sans problème parce qu'elle est vraiment confortable, elle est plus confortable. Et qui, malgré ça, a quand même, si vous faites de la moto, alors ça ne sera pas les sensations d'une moto. Je ne sais pas ce que vous avez comme moto, mais vous avez quoi d'ailleurs ?
J'ai un 1200 GS.
Ah oui, non, mais bon. Oui, bon, donc vous n'aurez pas les performances d'une moto, mais il y a déjà 270 bourrins et surtout avec un moteur qui est extrêmement disponible. Donc on peut rouler gentiment, c'est vraiment super agréable. Et quand on décide d'attaquer, le châssis de cette voiture, c'est un pur bonheur. En particulier, vous avez un système d'auto-bloquant à l'avant qui vous permet dans les virages de réaccélérer très tôt. C'est un truc, vous passerez beaucoup plus vite avec la voiture qu'avec la moto dans les virages au-dessus de Grenoble. C'est un pur bonheur. Habiter dans une région comme la vôtre et se dire, tiens, je vais me payer une voiture comme ça. Franchement, là, c'est du grand plaisir. Et surtout, c'est une voiture vraiment à deux visages qui, en sportive, à mon sens, est une référence. Surtout qu'on en trouve pas mal en occasion.
J'avais été surpris de voir qu'il y avait plus de 308 GTI d'occasion que de Mégane RS.
Bah, à votre avis, pourquoi ? Voilà. Quand vous en avez plus qui se sont vendus, c'est sans doute qu'il y avait une préférence pour ce modèle-là. Alors après, comme je vous dis, la Mégane, en plus la RS, après vous avez des évolutions, la Trophy, etc. Vous avez des modèles qui sont un peu plus exclusifs. Mais la 308 GTI, franchement, c'est le bon compromis. Moi, c'est une voiture que j'aime vraiment beaucoup.
Et déjà, qu'on peut trouver à quel tarif ? Vous avez regardé un peu, Philippe ?
Oui, moi j'ai à peu près 20 000 euros. Je regardais pour une voiture dans les 50-60 000 km. C'est à peu près... j'arrive à trouver des véhicules de ces modèles-là, quoi.
En plus, c'est des modèles relativement récents, non ?
La 308. Oui, bien sûr.
Oui, c'est à partir de 2016 pour les 308.
Ouais, voilà, c'est bien. Ouais.
Non, puis c'est une voiture discrète, c'est ça. Moi, c'est ça que j'aime aussi, parce que dans la catégorie, il y a des choses genre la Honda Civic Air ou la Ford Focus RS qui sont très efficaces. Mais franchement, là, on arrive avec des pelles à tarte partout.
Ouais, c'est bon, voilà, ouais, ça fait un peu.
Ouais, exactement, ça fait. Ça fait kéké, quoi. Mais c'est vrai.
Effectivement, ouais. Non, c'est pas tout. J'ai cherché un peu la discrétion aussi.
C'est ce qu'il faut. Franchement, c'est la plus discrète de toutes.
Donc, par contre, une petite question, parce que sur certains véhicules, je vois qu'il y a des récupérateurs d'énergie au freinage. C'est quoi ça ?
Ah, en fait, sous réserve, c'est un système de supercondensateur qui récupère une partie de l'énergie de l'alternateur au freinage. Et qui peut le restituer en particulier quand vous avez un stop and start au démarrage. C'est ça.
Donc ça réalimente sa batterie, en fait.
Oui. C'est-à-dire que en décélération, votre alternateur, il va débiter plus puisque là, il récupère en fait de l'énergie. Ça fonctionne comme c'est un moteur électrique. Hein. Ça fonctionne comme ça.
Et
vous allez charger une super capacité. C'est pas une vraie batterie, c'est une super capacité. Donc vous avez une énergie. Ça charge très vite, une super capacité. Ça se décharge aussi très vite. Vous prenez l'image de la super capacité, c'est un verre et une batterie, c'est une bouteille. Une batterie, il y a un petit goulot grande capacité et en revanche un verre. c'est très large, ça se remplit, ça se vide facilement, mais il n'y a pas une grosse capacité. Et ça sert, cette énergie, elle sert au démarrage de la voiture, donc le stop and start, et c'est gratuit puisque vous venez de la récupérer.
Voilà. D'accord. Ok, ouais, je savais pas que ça existait sur les.
Sur les modèles PSA, il y a eu pas mal de ça. Alors maintenant, est-ce que la 308 GTI est équipée de ça? Je m'en souviens pas. Hein.
Non, j'avais vu ça sur d'autres véhicules, notamment les Ford Focus.
Voilà.
Et puis sur certaines Mégane, effectivement.
Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ça a ça a été abandonné là sur les dernières générations. Aujourd'hui, on met de la batterie 48 volts ou de la batterie 12 volts lithium-ion. C'est plus efficace.
Voilà, Philippe.
Eh ben merci beaucoup.
Bon, bah 308 visiblement.
Bah visiblement oui.
Bon, soyez prudent hein, quand
ouais,
même.
Vous avez combien de points, Philippe?
Actuellement, je sais pas trop parce que là, j'ai fait le tour de Corse en moto et je pense que j'ai dû me faire flasher deux trois fois.
Ouais. Ah ouais, ouais. Surtout qu'en Corse, il y a quelques pièges assez à droite à gauche. Hein. Ouais. Vous arrivez dans un endroit, vous pensez que c'est la campagne, mais vous n'avez pas passé le panneau de sortie de la ville. Et là, comme par hasard, il y a les gendarmes qui vous arrêtent en vous disant ah, ben vous êtes à 90. Hein.
C'est du vécu, non,
ouais,
j'ai l'impression.
Ouais, c'est du vécu. Je dis bah
oui. Je vois.
90, mais je dis bah ouais, mais je suis que 10 km/h au-dessus. Ah non, vous avez vu le panneau de sortie de la ville? Bah non. Et ben voilà.
Ouais, surtout que c'est 80 maintenant et donc ça va encore plus vite.
C'est exactement ça.
Il faut faire attention en Corse, notamment aux petits villages hein, qui sont parfois très étendus.
Ouais, et ça, donc, c'est du vécu aussi, François.
Hein, bien sûr.
Les souvenirs. Vous savez, la Corse, c'est tellement beau. Ils se sont dit, on va faire des souvenirs photos, des gens qui passent, voilà, des touristes.
Ils pourraient quand même nous envoyer la photo.
Parce qu'il y a évidemment que les touristes qui se font avoir, hein, puisque les habitués, ils les connaissent,
les pièges assez.
Oui, tout à fait. Ouais.
À bientôt, Philippe. Merci en tout cas.
À bientôt. Merci.
Bon dimanche.
Au revoir.
Tiens, François, puisqu'on parlait de pièges AC, on parle souvent des ralentisseurs. Mm-hmm. Et en fait, l'association de Thierry Modolo, hein, puisque a obtenu un jugement dans le Var contre le maire de Lorgues, on va le citer, hein, 3 800 € à payer, puis remise en conformité du ralentisseur pour 15 000 €. Donc, il faut. Alors pourquoi je le dis à l'antenne et pourquoi je le répète? Parce que si tout le monde commence à dénoncer les ralentisseurs illégaux, on va peut-être arrêter de faire n'importe quoi.
Peut-être.
Voilà, ça serait bien.
On revient dans un instant, Jean-Luc, l'essai de la semaine entre autres. Ça sera le Suzuki Vitara hybride que vous avez testé pour nous. Et puis on va essayer de prendre aussi quelques-unes de vos questions d'ici 9h. A tout de suite, on revient dans une minute.
RMC jusqu'à 10h. Votre auto. RMC jusqu'à 10h. Votre auto. François Sorel. Jean-Luc Moreau.
Le retour de ce week-end des experts. Votre auto jusqu'à 10h à suivre dans ce rendez-vous dédié à l'automobile exclusif RMC. Tout à l'heure, on retrouvera notre question pas si bête. Quand est né le contrôle technique? On découvrira les Automobile Awards by Motul qui lance l'élection de la voiture de l'année 2020. Et puis, bien sûr, toutes vos questions auto à partir de 9h au 32-16 ou via l'appli RMC Direct Studio. N'hésitez pas, appelez-nous, on sélectionnera quelques-unes de vos questions. Mais dans l'immédiat, Jean-Luc, c'est l'essai de la semaine. Et l'essai de la semaine, c'est la Suzuki Vitara hybride.
Alors c'est pas tout à fait une nouveauté la Suzuki Vitara, elle a reçu quand même un petit lifting pour 2020, c'est surtout une nouvelle motorisation hybride, une motorisation hybride qui est désormais unique dans la gamme, c'est-à-dire si vous allez chez Suzuki que vous voulez acheter un Vitara, vous aurez le choix entre la motorisation hybride et la motorisation
hybride.
Exactement, vous D'accord. avez tout compris. Alors pour le moment disponible seulement avec une boîte à 6 rapports, mais dans un avenir proche, et ça on l'attend avec impatience, il devrait y avoir une boîte automatique de proposer également sur cette Suzuki. Alors qu'est-ce que c'est que le Vitara? C'est un SUV compact qui mesure 4,18 m de long. Alors pour le comparer, c'est quoi? C'est un concurrent des Renault Captur et Peugeot 2008, sauf qu'il est un peu plus petit. Il est plus compact, il fait les autres font 4,30 m de long, celui-là 4,18 m.
D'accord.
Bon, il a un style plutôt plaisant et malgré le fait qu'il soit un peu plus court, il a une habitabilité qui est correcte, qui est comparable à ses concurrents français. En revanche, il est un peu daté au niveau de la présentation intérieure.
Eh oui.
Surtout bon, si on compare à la référence en matière de high-tech, entre guillemets, du quel Peugeot 2008, en fait. C'est vrai que quand on monte dans l'un et dans l'autre, on a vraiment le sentiment d'être passé d'un siècle à l'autre, pratiquement.
C'est fou, ça.
Un petit peu de retard.
Ah oui.
La planche de bord, elle est franchement tristounette. Et même si l'équipement est complet, vous avez des plastiques qui font encore un peu cheap. Voilà. Bon, le donc Monsieur Suzuki, si vous nous entendez, le principal boulot, ça va être ça. Bon, pour le reste, c'est plutôt bien. En revanche, bon, sous le capot, le japonais reprend l'avantage par rapport à ses deux concurrents français en offrant une hybridation légère, donc moins onéreuse qu'une hybridation rechargeable ou une traction 100% électrique, comme c'est le cas sur le Renault Captur E-Tech, donc hybride rechargeable, ou le Peugeot i2008 qui est 100% électrique. Alors, pour s'adapter à l'hybridation légère, le 4 cylindres à essence turbo, 1 litre 4 booster jet, a été complètement remanié. Alors, il y a des injecteurs à 7 trous. Ah là là, vous vous rendez compte. Taux de compression revu. Bon, bref, je vous passe tous les détails techniques. Il gagne 15 Nm de couple en passant à 235 Nm. C'est pas mal hein, pour un moteur comme ça. Mais il perd de la puissance. Il perd 11 chevaux en revenant à 129 chevaux. Vous allez me dire, ah, pourquoi un moteur qui passe de 140 à 129 chevaux? Bon, il a gagné en couple. Et aujourd'hui, c'est pas tant la puissance qui compte. C'est surtout le couple qui va permettre de bonne relance. En plus, il est aidé par un système électrique qui est capable d'offrir 10 kW, c'est-à-dire 13,6 chevaux et 53 Nm de couple supplémentaire. Tout ça alimenté par une petite batterie lithium-ion de 48 volts. Alors, il peut évidemment pas fonctionner en 100% électrique comme le serait ce qu'on appelle un full hybride. Ça reste une hybridation légère, mais c'est quand même assez efficace. À l'usage d'abord, ça fonctionne en parfaite transparence, cette hybridation. L'assistance électrique, elle apporte surtout du boost à bas régime, ce qui rend la mécanique encore plus souple et encore plus onctueuse. Pourquoi je dis encore? Parce que déjà le moteur thermique de base, c'était déjà sa principale qualité. Et là, en plus, on lui rajoute du boost, on lui rajoute du couple en bas avec le moteur électrique. Et franchement, c'est très agréable à conduire. Alors les performances, malgré la baisse de puissance, reste bonne. Bon, la vitesse de pointe baisse, mais on s'en fiche. En revanche, les accélérations sont les mêmes, hein. C'est 0 à 100 en 9 secondes 5 pour la version 2 roues motrices, 10 secondes 2 pour la version 4x4 all grip. C'est aussi bien qu'avec l'ancien moteur 140 chevaux. Alors, je vous ai dit 4x4, c'est aussi un des avantages par rapport aux deux concurrents français qu'on a cités tout à l'heure, le Renault Captur et le Peugeot 2008, c'est que le Suzuki Vitara est disponible en 4 roues motrices pour un supplément de 2 000 €. Alors, la deuxième bonne nouvelle, outre le fait que le moteur est encore plus souple qu'avant et encore plus utilisable, c'est que la consommation est significativement en baisse par rapport à la version 1 litre 4 booster jet 140 chevaux. Quand on roule raisonnablement, on peut tabler sur 6,2 litres 100, c'est un bon litre de moins que l'ancienne motorisation, avec un agrément supérieur. Donc, vous voyez, ça n'a pas que un intérêt écologique, l'hybridation. Et puis, en ville, l'écart peut même atteindre 1,5 litre. Donc, c'est quand même pas mal. Alors, en matière de tenue de route, si le Vitara n'est pas à la hauteur, bon, le 2008, c'est la référence hein, dans le segment. Donc, c'est pas tout à fait à la hauteur. Le 2008 est plus dynamique. C'est vraiment... c'est le véhicule qui sera difficile d'aller chercher en la matière. Mais on a quand même un comportement qui est sain et il s'en tire plutôt honorablement. Et surtout, il est assez confortable. Alors, c'est juste dommage que Suzuki n'ait pas jugé bon de travailler plus l'insonorisation, parce qu'il y a des bruits de roulement qui remontent dans l'habitacle qui peuvent être assez désagréables. Le moteur, lui, est très silencieux, mais on a ces bruits de roulement, ça perturbe un petit peu.
Donc c'est quoi? C'est une mauvaise insonorisation?
Transmission, vous savez, les bruits de roulement, c'est complexe à arriver à diminuer. Donc là sur ça, il y a peut-être un peu de boulot à faire aussi. Alors, Combien ça coûte? Alors, cette nouvelle version hybride, elle est 1 500 € plus chère que le précédent 1 litre 4 booster jet. Alors, vous allez me dire, c'est cher. C'est cher, oui et non. Pourquoi? Parce que le surcoût, il est compensé par la baisse du malus, en partie en version 2 roues motrices et en totalité pour la version 4x4.
Ah ouais?
Eh ouais, parce qu'en WLTP, on passe de 148 grammes sur l'ancien à 128 grammes pour le 2 roues motrices et de 167 grammes à 140 grammes pour le 4x4. Ça veut dire qu'en fait, ce supplément,
il est annulé par le
malus. Donc, c'est plutôt intéressant. Il est disponible à partir de 22 640 € en finition d'attaque avantage, qui est déjà c'est un des avantages de Suzuki, c'est que même si la présentation est tristouille, l'équipement est déjà complet.
D'accord.
De base. Quand même. Après, vous avez une version privilège, 1200 euros de plus, puis la version au sommet de gamme qui est style à 1900 euros de plus. Mais là, vous avez, alors j'aime bien parce qu'on dit cuir synthétique, moi j'appelle ça Sky, hein, quand même.
Ouais, voilà, on est d'accord.
Un radar de recul.
Le cuir synthétique.
Ouais. Bon, un petit peu moins cher que ses concurrents français. Et si vous circulez sur de la petite route ou en agglomération, c'est un bon choix. D'ailleurs, d'accord. Il semblerait que les ventes de Suzuki depuis le début de l'année sont en pleine explosion. Je crois qu'ils sont à 148% de plus, hein, mm-hmm. de dingue. Donc l'hybridation, la bonne formule, oui. Même une hybridation light comme celle-là.
Voilà, et encore une fois, une marque à prendre au sérieux. On n'en parle pas beaucoup de Suzuki, hein, mais c'est une marque que vous appréciez, Jean-Luc, avec toujours des véhicules
oui, surtout,
de bonne qualité.
On n'en a pas parlé, mais effectivement, la fiabilité des moteurs Suzuki bien est sûr. Très très bonne.
Et voilà, c'est la patte japonaise, on va dire. Jean-Luc, il est bientôt 9h. On va revenir dans quelques instants. Météo, info. Et on retrouvera, entre autres, notre question pas si bête aussi. Quand est né le contrôle technique? Eh bien voilà, on fera un petit peu d'histoire avec Jean-Luc.
Alors un indice, il est né avant vous.
Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Et puis on évoquera aussi cette initiative du gouvernement qui officialise le lancement de son site de comparateur de prix du contrôle technique. On couplera les deux, tiens. Et bien évidemment, vos questions au 32-16 ou via l'appli RMC Direct Studio. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h. Votre tour.